France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, à l'occasion des fêtes de fin d'année, une émission entre imaginaire et voyage. Nous partirons pour le Grand Nord, à la rencontre du peuple inuit et de ses rites ancestraux. Puis direction le sud, dans l'île de la Réunion, où nous découvrirons des contes en langue tamoule et créole. Trois contes, trois escales pour vous inviter à la rêverie.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Nous recevrons d'abord l'écrivaine d'origine italienne et productrice de radio Simonetta Greggio, qui signe un très beau roman graphique, L'ours qui danse, chez Les Étages Éditions, en collaboration avec l'illustratrice Clara Debré. Un conte pour petits et grands, une fable écologique qui nous invite à renouer avec la nature et le vivant à travers l'histoire d'un homme d'origine inuite, arraché dès l'enfance à ses parents et élevé en Occident. Devenu professeur d'université, l'homme quitte un jour sa vie de citadin pour traverser la banquise en quête de ses racines. Nous partirons ensuite dans l'hémisphère sud, en plein océan Indien. Imaginez un arbre de Noël couvert de litchi, de mangue et de bibas, ces petites prunes jaunes d'or qu'on appelle aussi les nèfles du Japon. Nous serons à Saint-Pierre-de-la-Réunion où nous avons rencontré un auteur et une éditrice à l'occasion du Salon Athéna du Livre. Enseignant et traducteur, le jeune écrivain mauricien Cavignan Karapoudayan nous racontera un conte en langue tamoule que lui chantait sa grand-mère et qu'il a traduit dans un recueil intitulé « Contes indiens de l'île Maurice aux éditions Atelier des Nomades ». Et nous rencontrerons enfin Sophie Bazin, artiste peintre et éditrice, cofondatrice des éditions Dodovol, une maison d'édition réunionnaise associative qui publie des ouvrages jeunesse bilingues associant le français, le créole et le malgache. Trois récits de vie, trois contes pour faire vivre des langues et des cultures ancestrales menacées de disparition. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Simonetta Greggio, bonjour.
Bonjour.
J'ai avec moi votre très beau roman graphique en collaboration avec l'illustratrice Claire Debré. Cet ouvrage, c'est une réédition d'un premier roman que vous aviez publié aux éditions Cambourakis en 2018. Alors à l'origine, il y a une commande du Musée des Confluences à Lyon qui vous invite à écrire l'histoire d'une œuvre d'art. Et j'aimerais que vous nous racontiez comment est venue la rencontre. Plutôt, comment vous avez choisi cette statuette d'ours qui danse qui a donné son titre à votre livre?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'ours, en fait, qui m'a appelée. Dans ce très beau musée de Confluence, on a fait une longue balade pour que je me laisse appeler par les différents objets qui sont exposés. C'est une promenade que je voudrais que tout le monde fasse parce que on passe de l'origine de l'homme jusqu'à aujourd'hui d'une manière incroyablement efficace. On comprend beaucoup de choses, on voit le temps comme s'il était non pas figé derrière nous, mais comme s'il se déroulait pour nous, devant nos yeux. Et il y a cette baleine extraordinaire, enfin, c'est pas une baleine entière, hein, c'est le squelette d'une baleine. Et c'est vrai que cette baleine m'avait beaucoup appelée, mais en fait, en passant à côté de ces petites statuettes inuites, tout d'un coup, cet ours qui danse en stéatite, assez disgracieuse, il faut dire, c'est pas du tout une ours peluche, hein. C'est plutôt une ours un peu dodue, un peu disgracieuse. On dirait qu'elle attaque, on dirait qu'elle danse, on dirait qu'elle a peur. Et cette ours, tout d'un coup, a fait irruption dans mon imaginaire.
Vous savez pourquoi ?
Et je n'en sais rien. Je pense qu'elle m'a parlé le langage des ours ancestrales dont je suis. Je me sens vraiment
De toute façon, en tant qu'Italienne, vous êtes forcément un peu ours.
Un peu ours. Non, mais c'est vrai que je me sens mi-humaine, mi-animale. Et même parfois l'animal prime sur le côté humain. Et cet ours m'a parlé avec sa langue d'ours. Et je l'ai vu, je l'ai senti. Et je me suis dit, mais c'est elle qu'il faut que je fasse parler dans ce conte.
Alors vous dites que l'ours fait écho, justement, à votre féminité, à votre part sauvage. Depuis quelques années, l'ours est aussi la première victime du réchauffement climatique. Est-ce que vous avez aussi choisi d'en faire le symbole du vivant qui est menacé par les effets de l'action humaine ?
Ben vous savez, quand on est écrivain, on essaye de ne pas donner d'explications, de ne pas faire d'essais, de ne pas faire de philosophie. Je pense qu'un écrivain, comme il faut, c'est quelqu'un qui vous donne sa vision du monde tout en vous faisant rêver, tout en vous accompagnant, en vous prenant par la main. Et c'est ce que j'ai essayé de faire.
C'est-à-dire... À travers cette histoire, on comprend.
Voilà, je n'ai pas besoin de dire où on en est pour raconter, pour montrer en fait où on en est. Et cet ours nous amène là où il faut, c'est-à-dire là où notre univers, notre monde est le plus fragile. Aussi bien le monde humain que le monde animal.
Dans votre bestiaire, vous en parliez tout à l'heure, on rencontre un autre animal mythique, devenu légendaire sous la plume de l'écrivain américain Herman Melville. J'aimerais que vous nous lisiez un passage de votre livre qui résume toute la fragilité du lien et de la destinée commune entre la vie animale et la vie humaine.
J'en avais rêvé de la baleine. Dans mon rêve, elle s'appelait Jézéchiel. Elle m'avait expliqué comment parvenir jusqu'à elle, là où elle m'attendait. Bien sûr, j'avais oublié dès mon réveil l'itinéraire qui me porterait jusqu'à son nom. Mais quelle idée pour un chasseur solitaire de tuer une baleine ! Impossible ! Pour cela, il m'aurait fallu partir avec d'autres chasseurs. Autrefois, on se tassait sur un oumiak, un grand kayak communautaire. On risquait bravement sa vie au bout d'un harpon. Depuis, des moyens plus modernes avaient pris la place de ces chasses mythiques. Mais tuer une baleine reste l'un des grands rêves de tout chasseur. Et je ne faisais pas exception à la règle. J'ai lu d'un beau livre, Cablonac, que ceux qui chassent la baleine chez vous sont pris de grandes mélancolies au bout d'un moment. Car elle est sans nul doute l'une de nos sœurs les plus proches. Voir mourir un être qui nous ressemble, c'est plonger dans sa propre fin. La douleur de la baleine et son instinct de survie s'apparentent au nôtre. Elle enfante comme les femmes humaines. Elle joue et chante comme nos filles. Elle nous regarde avec nos propres yeux. Ce qu'elle ressent, c'est ce que nous ressentons. Au fond de moi, j'ai toujours considéré que tuer et manger nos frères et sœurs nécessite du respect et une forme particulière de ce que vous appelez prière. Mais il faut me rendre à l'évidence. Ni le pouvoir de nos chamans, ni les plus hautes pensées de vos philosophes ne peuvent enrayer ce processus. Dans le grand tumulte du monde, nous n'entendons plus les voix. Nous ne savons plus ni aimer, ni tuer, acte fondateur de l'être humain.
C'est beau ce passage, nous ne savons plus ni aimer, ni tuer.
Je pense que quand on va dans un supermarché, nous sommes habitués maintenant à faire nos courses dans les supermarchés, et que nous voyons ces morceaux de bêtes, d'animal...
On oublie que c'est des animaux.
On essaye de nous faire oublier que c'est des animaux. Alors, moi, je suis devenue végétarienne sur le tard parce que j'ai été pendant des longues années critique gastronomique. Donc, vous imaginez, j'ai mangé tout ce qui était comestible, justement de la baleine au dauphin, malheureusement, au serpent, au singe.
Vous avez tout goûté.
Je pense que j'ai tout goûté parce que c'était mon travail à une époque. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie de manger nos semblables, nos frères et sœurs ?
C'est venu du jour au lendemain ?
C'est venu assez rapidement. J'étais à la radio, je faisais une grande traversée pour France Culture sur Brigitte Bardot. Et cette femme, avec cette espèce de feu d'enthousiasme, de folie, elle est hargneuse, elle ne vous laisse pas de place. Si vous voulez la suivre, c'est bien. Si vous ne voulez pas la suivre, c'est votre affaire. Et tout d'un coup, j'étais à la cantine de Radio France et j'allais manger, comme d'habitude, j'en sais rien, peut-être une blanquette avec du riz. Et je me suis dit, mais qu'est-ce, c'est, pourquoi ? Mais pourquoi je fais des choses comme ça ? Mais en fait, non, j'arrête les conneries. Il faut que j'arrête. Et c'est fou parce qu'à partir de ce moment, en fait, ma vie entière a changé. Outre le fait que ça a été très compliqué avec ma mère qui me disait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas mourir de faim ?» Non maman, en fait, non.
Vous avez survécu jusque-là.
Ah oui, et je compte bien survivre.
Ce qui est beau aussi dans ce passage, c'est que vous distinguez deux époques. Finalement, Aujourd'hui, avec la modernité, ce qu'on sent, quand vous parlez de la chasse à la baleine, c'est aussi une sorte de combat déloyal avec justement les moyens modernes qui permettent de chasser. Et on sent que c'est moins une critique finalement de la chasse que de la modernité que vous formulez.
Bah, je pense que je passe ma vie maintenant à essayer de soulager la douleur animale. Et je me dis que tous ces chasseurs qui n'ont aucune conscience de cette douleur, parce que pour eux, l'animal n'est pas un être qui est sentient, enfin un être sensible. Et le dimanche, quand j'entends tout ce bruit que font les chiens qui sont aussi horriblement traités dans ces chasses, je me dis, mais en fait, il suffit d'une seconde pour que tout ce que moi, je donne aux animaux soit complètement anéanti. Et ça me trouble beaucoup de voir à quel point on a perdu le sens et de l'amour et de l'assassinat, entre guillemets, de nos frères et sœurs.
Quand vous dites « aimer et tuer », il y a dans « aimer et tuer » aussi l'abandon et le deuil. Est-ce que ce n'est pas là aussi les épreuves caractéristiques d'un récit d'apprentissage? Est-ce que ce n'est pas aussi le sens de votre livre d'apprendre à devenir, à redevenir humain?
Oui, je pense qu'il faut en passer par là. Quand j'étais petite fille, ma grand-mère m'avait appris à mettre à mort les lapins, les poules. Je savais le faire. Je savais le faire, alors je dirais un gros mot, mais c'est avec délicatesse, avec gentillesse. Il y a manière et manière de mettre à mort nos frères et sœurs humaines et humains, enfin animaux, vous voyez.
Oui, le lapsus, c'est
intéressant. Le lapsus est révélateur, tellement maintenant c'est vraiment pour moi...
C'est vrai que quand vous dites mettre à mort nos frères et sœurs humains, soudain ça fait bizarre.
Oui, absolument, vous voyez comme ça, tout d'un coup, ça prend un sens différent.
Avec délicatesse, c'est vrai que ça fonctionne plus.
Il n'y a pas d'être sur cette terre qui a envie de passer de l'autre côté. On est tous ici pour faire une expérience sur cette terre. C'est une sorte de petit intervalle entre cette naissance et cette mort. On ne sait pas du tout ce qu'il y a avant, on ne sait pas du tout ce qu'il y aura après. Mais cette vie, on y tient tous.
Merci Simonetta Grégio, on se retrouve dans quelques minutes. Mais d'abord, on écoute Miel de montagne et Girl Ultra, Mas Cerquita. Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous quittons à présent le Grand Nord pour l'hémisphère sud, direction l'île de la Réunion à l'occasion du Festival Athéna du Livre. Nous avions rencontré en octobre dernier un jeune auteur mauricien, Kavignan Kalupudayan. Enseignant et traducteur, il nous parle de sa langue natale, le tamoul, transmise dans les îles au fil des migrations venues d'Inde et de Malaisie au XVIIIe siècle. Kavignan nous ouvre son livre de contes indiens de l'île Maurice, paru aux éditions Atelier des Nomades, un ouvrage coécrit avec Amarnath Ozani et illustré par Judith Gueffier.
Au livre, etc. Lilia Hassen.
Kavignan Kalupudayan, bonjour. Vous êtes écrivain, traducteur et enseignant. Vous êtes mauricien, membre du jury du prix de poésie Édouard Monique, aux côtés d'une romancière, elle aussi originaire de Maurice, Ananda Devi. Et vous avez publié un recueil de contes, Contes indiens de l'île Maurice, aux éditions L'Atelier des Nomades, illustré par Judith Gueffier. Alors, Kavignan Kalupudayan, d'où ils viennent, ces contes?
Ces contes viennent de l'Inde. Et en fait, les artisans tamouls ont été les premiers à venir à Maurice. Maï de la Boulonnais est venu chez nous en 1735. Donc même avant 1724, les premiers tamouls sont venus à Maurice. Et après, il y a eu la grande immigration indienne de 1834, juste dans le sillage de l'abolition de l'esclavage. Et ces contes nous viennent de Pondichéry, de Calcutta, de Madras, donc dans les navires, et ont atterri chez nous. Et après, il y a eu forcément le métissage, avec le rencontre avec le créole mauricien, qui est notre langue maternelle. Donc, ces contes ont été racontés de génération en génération et risquent de se perdre.
Qui vous a transmis ces contes?
Donc, si je prends le conte, la légende de Naletanga, c'est un conte que me racontait mon grand-père, Tata, comme on dit en tamoul, et il racontait le conte de Naletanga. Il chantait plutôt, même s'il ne connaissait pas la graphie tamoul, mais il chantait à mon père, et mon père, c'est qui m'a transmis cette histoire.
Et vous, est-ce que vous chantez à vos enfants?
Oui, je chante en tamoul, en anglais, en français, mais surtout des berceuses en tamoul.
Kavignan Kalupudayan, est-ce que vous pourriez nous raconter justement ce conte de fées de Naletanga?
Alors, la légende de Naletanga, c'est le personnage principal. Donc, elle vient d'abord d'une famille riche et elle est mariée à un roi. Donc, elle quitte sa ville natale. Et à un moment donné, donc, sa vie de mariage est heureuse, elle a 7 filles. Et à un moment donné, il y a la famine, ce qu'on appelle Panjam en tamoul. Et son mari lui dit que ça va s'arranger. Mais la pluie ne tombe pas et elle se dit, pour ses filles, elle va rentrer. Donc elle rentre dans sa ville natale et elle rencontre son frère qui lui dit d'aller à la maison. Ta belle-sœur va bientôt s'en occuper de toi. Et quand elle rentre à la maison, sa belle-sœur, qui l'a vue venir avec ses 7 filles, ferme les fenêtres et la porte. Et là, elle tape, elle implore, elle chante. En tamoul, elle dit Anni yare, anni yare, yen annenoru devi yare, kadavu tiraku mama. Donc, elle dit Anni, c'est belle-sœur. Elle dit je t'en supplie, ouvre-moi et ouvre la porte. Et là, elle finit par ouvrir et elle lui donne le bananier pour préparer à manger. Elle crache dans la nourriture même. Elle donne des mangues fleutries, etc. Et elle n'en peut plus, elle décide de s'en aller. Et là, ce sont des gens du village qui, comme si, nourrissent Naletanga. Et des années plus tard, elle rentre dans sa ville où elle s'était mariée. Donc, son mari n'est plus. Et elle regagne comme si la maison familiale. Et là, ces 7 filles sont venues des déesses. Et c'est là que la maison reprend vie, comme si.
C'est un conte d'espoir.
C'est un conte d'espoir.
Et c'est quoi le lien avec le fait que sa belle-sœur ne l'aime pas?
Oui, en fait, même avant le mariage, comme si la belle-sœur voulait se débarrasser de Naletanga. Parce qu'elle est comme si une rivale. Parce que, en fait, Naletanga, l'origine même, le nom veut dire Nala veut dire bien. Tanga, Tangé veut dire sœur. Donc la belle-sœur veut tout avoir pour elle. Donc c'est pour ça qu'elle n'aime pas du tout Nalatanga.
Vous parlez aussi beaucoup souvent de votre grand-mère. Elle aussi, elle vous a transmis des contes. Est-ce que vous avez encore le souvenir de sa voix?
Alors, ma grand-mère maternelle, elle est toujours là, elle a 75 ans et toujours en train de voyager. Mais dès qu'elle rentre à Maurice, j'enregistre. Et parce que l'un des regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir enregistré la voix de mon grand-père. Et ma grand-mère, même la légende de Nalatanga, elle peut chanter. Donc j'ai enregistré, je garde. Et ce que j'ai peur, c'est parce que la langue tamoule, je parle avec elle couramment. Et c'est elle, en fait, c'est grâce à elle que je suis devenu. Chaque fois, je lui dis « Tamirane kurta pichay », ça veut dire, c'est comme une charité, c'est comme la transmission, en fait. Elle m'a transmis cette langue et moi, je me fais un devoir de transmettre aux autres.
Kalyanam, kalyanam, karigeku, kalyanam. Yendreku, kalyanam, yengalida, kodiku. Sitire, madatile, selva, kalyanam. Kalyanam, endusula, kapaleri, pakuvetan. மத்தில பாக்கு வைத்து மனிதர்க்கு போக விட்டார் சின்னமதி கோழி சீமையெங்கும் பாக்கு வைத்தார் பெரிய மடி கோடி பூமி எங்கும் பாக்கு வைத்தார் பானையின் மரம் பிளந்து பண்டக்கால் செப்பனித்தார் தென்னை மர பிளந்து தெருவெல்லாம் பண்டளித்தார் வன்னி மார பிளந்து வாசக்கால் செப்பனிட்டார் முத்து மார பிளந்து முத்து முற்கேட்டால் செம்பனித்தார் இட்டார்கள் பந்தலே இருபது காதவாரே தொட்டார்கள் பந்தலே தொண்ணூறு காதவாரி.
Qu'est-ce qu'ils apportent les contes de fées? À quoi ça sert les contes de fées?
Moi, je n'aime pas quand on dit que les contes de fées doivent avoir une certaine moralité. Il y a quelque chose. Chacun prend ce qu'elles veulent, des contes de fées, des contes. Et je pense que ça nourrit, ça aide à nourrir notre imaginaire. Et voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas une fonction cathartique aussi des contes de fées?
Oui. Par exemple, si on prend la légende de Nalatanga, comme je vous ai dit, il y a des gens qui, c'est comme si une source de se réconforte, en fait, en lisant Nalatanga. Et quand on voit à la fin que tout se passe bien, donc les gens se disent qu'on passe par une traversée du désert, mais qu'il y a toujours l'espoir, il faut toujours espérer, il faut toujours rêver.
Ces contes que vous placez dans votre livre portent en eux l'héritage de l'histoire aussi du colonialisme et de l'esclavage. Est-ce que pour vous, le conte permet aussi de ne pas oublier des pans de l'histoire?
Oui. Je pense que chez nous, à l'île Maurice, des fois, il y a des périodes de l'histoire qu'on essaye de masquer ou ça, mais je pense que justement les contes nous aident à, parce que c'est important de s'en souvenir que à Maurice par exemple, je vous ai dit, Port-Louis, la capitale, il y a plein de bâtiments que les artisans tamouls ont aidé à construire, que les esclaves, je dis toujours à mes élèves à l'école que la période de l'esclavage, c'est un moment, une période dure, difficile dans l'histoire de Maurice, des îles, mais il faut s'en souvenir, en tirer des leçons, mais il faut s'en souvenir, il faut en parler surtout.
Les contes de fées permettent de s'en souvenir et d'en parler. Vous, dans votre travail d'enseignant, vous les utilisez?
Oui, et ce que j'aime faire, parce que vous savez, à l'île Maurice, des fois, par exemple, il y a plein de contes qui sont venus d'ailleurs, mais qui aussi sont nés sur le territoire mauricien. Mais des fois, par exemple, si à l'école, on n'enseigne pas vraiment les contes. Et on prend des contes qui sont étrangers, comme s'il y a notre contexte. Et je trouve ce que je trouve dommage, mais on essaye de faire l'effort. Et je sais que maintenant, il y a plusieurs écoles françaises qui utilisent les contes indiens à l'île Maurice. Mais dans les écoles publiques, moi, je travaille à l'école publique, donc j'essaye d'emmener les enfants à la rencontre des contes qui les appartiennent, en fait. C'est leur héritage.
Vous avez traduit en créole la poésie d'Édouard Monique, qui est donc écrivain et diplomate mauricien, mort en 2021. L'ouvrage s'intitule « Ces oiseaux de sang ». Il a été publié en 2024 aux éditions Pamplemousse avec une préface d'Ananda Devi. Elle écrit « Tu m'as ensoleillé et écartelé par tes mots, Édouard Monique ». Qu'y a-t-il de si violent, ambivalent dans la poésie d'Édouard Monique ? Pourquoi c'est un auteur que vous aimez ?
Alors, Édouard Monique, un regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir rencontré en personne. Mais j'ai rencontré sa poésie. Et Édouard, c'est quelqu'un que j'aime par la force des mots. Et Édouard, il dit des textes. C'est un poète qui... donc, le premier recueil, c'est « Ces oiseaux du sang », qui a été publié en 1954. Et on voit déjà des thèmes avant-gardistes. Il parle déjà du changement climatique. Donc déjà en 54, 70 ans de cela. Et moi, j'ai voulu traduire parce que vous avez... Je pense que le rôle du traducteur, c'est un passeur. On passe d'une rive à ça. Donc ici, c'est du français au créole mauricien. Et comme Ananda Devi dit dans la préface, y a des trouvailles heureuses des fois, par exemple des allitérations. Il y a des choses que, par exemple, Monique, à un moment donné, j'utilise, il faut chasser une tempête pour chasser ça, les oiseaux dans ça. Mais je pense que j'aime traduire, et surtout pour faire connaître, pour faire découvrir.
Et si on doit lire un livre d'Édouard Monique, lequel a votre préférence ?
Ensoleillé vif.
Bon, très bien. Écoutez, on conseille donc vos contes indiens de l'île Maurice, Cavignan, mais aussi ces oiseaux du sang d'Édouard Monique, Soleil et vif.
Ces oiseaux du sang aussi. Le premier recueil, ces oiseaux du sang, il faut vraiment lire pour la force des mots d'Édouard Monique. Et le livre a été publié l'année dernière par l'agence Immédiat. Il y a la collection Maurice à Maurice. C'est une revue trilingue, anglais, français, créole, mauricien. Et chaque année, j'ai été découvert grâce à la collection Maurice. Ma première fois, j'ai écrit en créole mauricien, justement, dans la collection Maurice.
Et on conseille tous ces livres. Merci, Cavignan Karapoudayan.
Merci beaucoup.
Et nous poursuivons notre voyage à Saint-Pierre-de-la-Réunion, où ma collaboratrice Estelle Gap a fait une autre belle rencontre.
Alors Sophie Bazin, bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à Saint-Pierre-de-la-Réunion dans le cadre du 7e festival du Salon Athéna organisé par la mairie de Saint-Pierre. Et vous êtes artiste plasticienne, éditrice, illustratrice, sous le pseudo, je crois, de Marie Desel. Et vous êtes née en métropole, à Caen, vous êtes normande d'origine et vous avez vécu plus de 20 ans à La Réunion. Le temps qu'il faut pour aimer cette culture et surtout créer les éditions Dodo Vol qui vont bientôt fêter leurs 20 ans. Alors racontez-nous comment vous êtes tombée amoureuse de cette culture et qu'est-ce qu'une Normande est venue faire à La Réunion.
Bon, alors ce que je suis venue faire au départ, c'était juste pour suivre mes études, puisque je suis médecin de formation et j'ai terminé mon résidanat de médecine générale ici à La Réunion. Et puis j'étais venue pour un an de stage et je suis restée effectivement très longtemps. J'étais à l'époque surtout peintre, donc la peinture a pris de plus en plus de place dans ma vie, au point qu'à un moment donné, j'ai décidé que ça devait être ça, l'occupation principale, et plus la médecine. Ce qui fait que j'ai eu une carrière de peintre, de plasticienne ici, avec des expos un petit peu prestigieuses à l'Artothèque du département, à la pyramide de la région, enfin. Mais en fait, c'est cette carrière de plasticienne qui m'a amenée bizarrement à l'édition. Et ça, c'était pas tellement prévu, enfin, ni la carrière de peintre d'ailleurs. Mais il y avait, à cette époque-là, on sentait une difficulté à faire voyager nos œuvres. Nous, plasticiens de La Réunion, c'était très difficile de se projeter dans l'Hexagone puisque les conditions matérielles de transport des œuvres étaient compliquées. Et donc, on était un peu frustrés de ce côté-là, de se dire on est dans notre petit bout de caillou, là, et finalement, les gens à l'extérieur ne peuvent pas connaître ce qu'on fait. Et de cette dynamique-là, en fait, est apparue une chose, c'est que quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai constaté que les livres pour enfants avaient une grande présence dans la maison, que les livres jeunesse étaient toujours ouverts sur le canapé, dans la cuisine, qui se baladaient d'une pièce à l'autre, qu'en plus ils avaient un temps de vie assez long, beaucoup plus long que les catalogues, hein, puisqu'à l'époque, comme encore maintenant, on produit des catalogues qui ont des textes intéressants, assez pointus, mais qui sont lus finalement par très peu de gens, qui restent la plupart du temps au fond d'un tiroir. Et puis, j'ai eu un peu cette révélation de voir que les livres pour enfants, eux, c'était des visuels qui restaient dans notre champ toute la journée, dans notre quotidien, vraiment. Et de là est née cette idée, avec mon compagnon Zohar Avaloson, de créer d'abord une petite collection de livres pour les tout-petits, en carton, tout en carton, fait à partir des ouvrages, à partir des œuvres de nos amis. Donc c'est le contraire du schéma classique. Habituellement, on part d'un texte et on cherche une illustration pour coller au texte. Nous, on a cherché des auteurs pour imaginer des livres à partir de peintures existantes. Donc ce n'était pas de l'illustration, c'est vraiment des livres de peinture pour les tout-petits. Et ça a été la première collection. Donc le tout premier livre s'appelle Dodo Vol, comme la maison d'édition. On a demandé à nos amis artistes de représenter le dodo, comme personne ne l'a vu, chacun le représente comme il veut. Le dodo, pour nous, c'était un animal qui avait disparu, donc quelque chose de fragile. Ça portait déjà en soi toute cette fragilité-là. En même temps, c'est un animal débonnaire. C'est un animal qui est un peu emblématique de tout l'océan Indien, même s'il n'a réellement vécu qu'à Maurice. Dire dodo, c'est sympathique, c'est rigolo, c'est enfantin.
Alors dodo vol, est-ce que c'est une façon de redonner des ailes à cet animal qui a disparu ?
Oui, lui redonner des ailes et surtout penser que les livres sont des ailes qu'on donne à nos enfants pour qu'ils aillent plus loin, pour qu'ils aillent plus seuls aussi, qu'ils s'autonomisent. Enfin, pour nous, les livres, c'est vraiment un moyen de grandir, quoi. Et les ailes qu'on donne à notre dodo, c'est ça. C'est dire on va donner des ailes aux enfants pour qu'ils aillent plus loin. Après, il y avait aussi toute cette dynamique, toute cette portée des cultures en voie de disparition. Parce que rapidement, on a eu d'autres sujets qui nous ont interpellés. Par exemple, il y avait le créole. À l'époque, en 2005-2006, quand on a créé la maison d'édition, les enseignants nous disaient « je suis embêtée, moi je parle français, je ne parle pas le créole puisque je viens de métropole, et j'ai dans ma classe des enfants en petite section qui rentrent en maternelle, ils n'ont entendu que le créole à l'école, et je ne peux pas leur lire des livres dans leur langue, je n'ai aucun support de représentation pour leur langue. Ça nous manque. » Voilà. Donc le deuxième livre qu'on a fait, c'était un livre qui s'appelle Cosa Incheuse, donc qui est sur les devinettes créoles, vraiment un patrimoine oral de la culture réunionnaise. Et c'était un livre tout en créole pour donner ce genre d'outils aux enseignants.
Alors oui, la ligne éditoriale de votre maison d'édition, c'est vous avez constaté qu'il manquait et que effectivement toutes ces langues sont d'abord des dialectes oraux et qui n'ont aucun support écrit, c'est ça ?
Alors, pour moi, je ne parle jamais de dialecte, parce que c'est un côté un peu patois, dialecte, tout ça. Bon, une langue, elle est dans la bouche d'un locuteur, c'est une langue. Voilà, quel que soit son statut, il y a des langues qui dominent, il y a des langues qui sont dominées, il y a des langues qui sont minorées, il y a des langues qu'on met sous le tapis, comme longtemps ça a été le créole à La Réunion, où maintenant il a droit de citer, il y a même un CAPES en créole, mais ça n'a pas du tout été le cas toujours. Longtemps à l'école, on empêchait les enfants de parler dans leur langue. L'idée, c'est qu'un enfant qui parle une langue, sa langue se respecte, quelle que soit cette langue, même si elle a peu de locuteurs, même si elle a une autre langue qui est plus costaud, plus dominante à côté. Sa langue se respecte parce que c'est son identité, quoi. Une langue, c'est la famille, c'est ce qui est transmis par les parents. Donc c'est constitutif de l'identité de l'enfant. Et si on lui dit que sa langue ne vaut rien, alors il pense que sa culture, c'est pas bon. Et il va longtemps essayer de la mettre de côté. Et puis à un moment donné, peut-être qu'il y aura un rebond, qu'il va se dire « mais moi quand même, ma langue, c'est ça ». Alors il va carrément virer l'autre langue qu'on essayait de lui imposer. Donc ça fait des nœuds dans la tête des enfants. Et moi, je pense qu'on peut grandir avec plein de langues, avec beaucoup de langues qui ne se font pas concurrence.
Oui, voilà, on a un de vos albums là que vous publiez, donc les éditions Dodo Vol. Donc là, on a un livre de contes qui réunit un conte malgache et un conte français. Le conte malgache est traduit en français, le conte français est traduit en malgache. Et, c'est une collaboration entre deux écoles avec des CM1, des élèves de CM1, CM2. Justement, ce qui m'a frappé dans votre approche, dans votre ligne éditoriale, c'est ça, c'est tout à coup, vous transformez la francophonie, qui peut être vue comme la langue, le français, langue dominante, langue héritée effectivement du colonialisme, vous dépassez un petit peu ce principe de deux langues ennemies pour plutôt les réconcilier, et vous avez ce discours fort et assez original, je trouve, qui est de dire le français peut être aussi un support et mettre en valeur la langue maternelle, toutes ces langues minorées.
Oui, oui, moi je pense vraiment qu'on peut grandir avec plein de langues. Alors effectivement, il y a un héritage colonial qu'on peut pas nier, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans les écoles africaines, par exemple, qui ont été avant des colonies françaises, la plupart du temps, l'enseignement est en français. Je connais bien Madagascar, mais c'est le cas aussi en Guinée, au Sénégal. Étant donné qu'il y a plusieurs langues nationales qui cohabitent, on préfère garder le français à l'école pour plein de raisons. D'abord parce que c'est compliqué de choisir une langue nationale parmi plusieurs. D'autre part, parce que les outils d'enseignement, l'université, tout ça, très souvent les livres sont en français. Les enseignants aussi sont habitués à enseigner en français. À Madagascar, il y a eu une époque où ils ont essayé de faire la malgachisation dans les années 70, mais ça ne s'est pas très bien passé. Les enseignants n'étaient pas assez formés. Du coup, ça a été appelé la génération sacrifiée, parce que finalement, ils n'ont rien appris, ni en français, ni en malgache. Donc, ils sont revenus à un système d'enseignement en français. Donc, le fait est que les parents aussi, attendent un apprentissage en français parce qu'ils espèrent une ascension sociale pour leurs enfants, et que ce soit un développement soit vers le tourisme, soit des études à l'extérieur, ça passera forcément à un moment donné par une langue internationale, et en Afrique francophone, ce sera souvent par le français.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous essayez de reconstituer toute une culture. Je crois que vous aviez créé cette revue, la revue des Lémuries. Dites-nous ce que c'est les Lémuries, parce qu'on ne connaît pas en métropole.
Alors la Lémurie, c'est une sorte de continent qui a peut-être une base physique, mais qui est d'abord et avant tout un continent littéraire, qui a été documenté par des gens comme Herman ici, qui était un ancien maire de Saint-Pierre, avec les révélations du Grand Océan, qui a été documenté aussi par un auteur comme Malcolm de Chazal, mauricien, ou comme des artistes Xiema à Madagascar. C'est une sorte d'Atlantide, un continent qui serait englouti, dont Madagascar serait la partie restant émergée. Et c'est surtout un continent passerelle, quoi, puisqu'on est une sorte d'archipel. Il y a la Réunion, il y a Maurice, il y a les Seychelles, il y a Madagascar. Et puis finalement, entre ces cultures-là, il y a des ponts, mais pas tant que ça. Et on a créé la revue Lettres de Lémurie après un salon aux Comores, où entre les auteurs invités, on s'est dit, ça nous manque en fait, cet outil de reconnaissance entre nous. Donc la revue Lettres de Lémurie, elle publie toujours en français. Le français reste la langue d'un bout à l'autre de la revue. Mais quand le texte à l'origine n'est pas écrit en français, on publie les deux versions. On publie en bilingue. Donc on a des textes malgaches qu'on a traduits ensuite, des textes en créole mauricien. On a même un auteur, Amal Stutohul, qui a eu le prix des cinq continents, qui nous a fait une nouvelle qui en fait mélange du créole mauricien et de l'anglais et du français. En fait, il a écrit comme il parle. Donc c'est un truc impubliable ailleurs que dans une revue. On a mis une traduction en français en face. Mais lui, il s'est autorisé cette expérience-là parce que c'est l'espace d'ouverture de la revue. Alors la revue accueille surtout des nouvelles, des extraits de romans, mais il y a aussi un peu de théâtre, il y a parfois de la poésie. Et c'est surtout un objet qui nous reconnaît tous dans cette partie de l'océan Indien. Donc il crée des liens d'amitié autant que des découvertes.
Vous marchiez Juliette au bord de l'eau, vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un baguet. De l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Yves Simon au Pays des Merveilles de Juliette et nous quittons le continent mythique des Lémuries pour revenir en studio à Paris en compagnie de l'autrice Simonetta Greggio qui publie le conte L'ours qui danse aux Étages Éditions. Simonetta, nous évoquions la part sombre de votre récit, ce récit d'apprentissage qui passe par l'épreuve de la mort et du deuil. Et c'est précisément cet aspect de votre texte qui a beaucoup plu à l'un de nos libraires. On le retrouve tout de suite sur un autre continent, dans un pays frontalier du Grand Nord que vous décrivez, le Québec. Bonjour Mike.
Bonjour Lilia.
Vous allez bien ?
Oui, très très bien.
Alors vous êtes libraire à la librairie Médiapole de Montréal et vous avez été littéralement bouleversé par la dimension tragique du livre de Simonetta.
Oui, bonjour Simonetta Greggio. Je suis passé dans ma lecture sans cesse du texte aux images, ému par l'un, fasciné par les autres. Le respect que vous accordez au peuple inuit est indéniable, mais il y a plus que cela dans votre récit. Dans ce conte initiatique où la nature rencontre l'humain, où le courage efface la peur, dans ce conte qui nous raconte sans nous faire la morale, il y a plusieurs mots sonores qui ressortent, mais Tark, l'ombre, domine tout le texte. L'ombre qui se jette, qui se cache, dissimule, trompe. Dans la quête identitaire du personnage, dans son besoin de revenir aux sources, on y ressent un message universel, ou un appel, je dirais. Nous devons tous retrouver l'humain en nous, celui que nous avons par nous-mêmes égaré.
Et ce qui est intéressant, Mike, dans votre lecture, c'est que la barbarie n'est pas là où l'on croit.
Oui, oui, vraiment, nous retrouvons ceci dans votre récit, ce besoin de renouer avec le vivant, contrer la barbarie des hommes devant les animaux et retrouver le respect face à ce qu'ils sont et ce qu'ils offrent de leur vie et de leur sacrifice. Votre texte est parfois acéré comme un couteau de chasse, parfois enveloppant comme une fourrure réconfortante. Il nous pousse à voir crûment l'insignifiance et la cupidité de l'homme face à la nature.
Et vous avez été très sensible au dessin aussi, Mike.
Oui, les illustrations sont d'une clarté en cohésion avec le texte, mais elles se définissent tout autant par elles-mêmes. Les dessins ne font pas que compléter le texte, ils le prolongent, ils l'étoffent sans jamais, jamais le paraphraser. Leçon de courage, récit de réappropriation, d'identité, plaidoyer en faveur du respect des cultures ancestrales. Au-delà de tout cela, nous sommes ici face à un superbe récit où animal et humain se partagent la terre, où une ours danse et un homme pense.
Et Mike, vous aviez une question à poser à Simonetta Greggio.
Oui, Simonetta, dans un contexte où il est parfois difficile de parler pour l'autre quand on ne l'est pas, comment avez-vous abordé l'idée de raconter l'histoire à la première personne dans la voix d'un homme inuit?
Bonjour Mike, merci, ça me fait tellement plaisir parce que votre lecture bouleverse aussi.
Un plaisir.
Parce que vraiment, c'est des âmes comme vous que je cherche à toucher et voilà, merci infiniment. Vous savez, c'est pas une question que je me pose parce que sinon je serais pas écrivaine. Si je devais m'en tenir à mon petit nombril de femme blanche de mon âge, ben, j'écrirais plus rien, des petites histoires d'amour sans intérêt et des choses qui, enfin, des affaires qui, voilà, qui ne vont pas très loin. Alors qu'en tant qu'écrivaine, je pense que je suis là pour dire la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Et je me fiche totalement de ce qu'on peut penser, de ce que je fais. Je le fais parce que je dois le faire. Et je pense que cet ours avait besoin de me parler. Cet homme inuit avait besoin de parler. Je l'ai fait avec tout le respect que je pouvais. Je me suis infiniment documentée pour le faire. J'ai été chez vous souvent, j'ai été au fin fond de votre pays que j'adore. Et voilà, j'ai un tout petit peu vu comment ça se passait. J'aimerais y retourner maintenant que le conte a été écrit. Mais voilà, donc je ne me défends d'écrire rien de ce qui est humain, animal, arbre, eau, source, terre, ciel, oiseau. Voilà, tout peut passer par ma voix.
Et vous pourriez donc parler à la place, entre guillemets, d'un animal ?
Oh oui, je l'ai fait dans le prochain livre. Je ne me retiens pas du tout de le faire. Au contraire, ça m'amuse beaucoup. J'ai écrit à partir de deux petites souris absolument amusantes qui parlent. Et elles sont terriblement insolentes. Qu'est-ce que je me suis marrée ?
On parle des contes dans cette émission. Vous êtes une lectrice vous-même de contes de fées, est-ce qu'ils ont joué une place dans votre vie ?
Ah là là, mais moi quand j'étais petite fille, j'avais tout, heureusement que ma mère avait acheté le recueil de tous les contes. Alors Andersen, c'était l'un de mes préférés parce que c'était tragique, c'était dramatique.
Mais c'est violent les contes,
c'est très très violent. C'est très violent parce qu'on dit aux enfants, les ogres n'existent pas, mais en fait on n'arrête pas de leur dire que quand même ça existe.
En fait ils existent, bien sûr.
Et mon conte préféré, c'est celui de la petite sirène que j'ai lu et relu. Je ne sais combien de fois, et chaque fois, c'est un peu comme les opéras, je pleure à chaque fois, ça se termine toujours très mal.
Qu'est-ce qui vous touche dans La Petite Sirène ?
Qui me touche, c'est le sacrifice qu'une femme poisson fait pour aimer un humain.
Le sacrifice de sa voix.
Et le sacrifice de sa voix, de sa chevelure, de sa queue, de son monde.
Je vous pose la question, parce qu'en tant que romancière, c'est vrai que le sacrifice de la voix, c'est...
Vous savez très bien vous-même pourquoi on parle de ça, puisque vous écrivez des très belles choses aussi, et vous savez très bien par où on en passe, par où on passe. Cette sirène fait le sacrifice de tout, et en fait cet homme ne s'aperçoit de rien. Et il faut quand même se souvenir de ce que dit la grand-mère. Sirène, à la toute petite sirène, elle lui dit, ne t'approche pas des hommes, ils sont tellement faibles que leur faiblesse leur sert finalement d'arrogance, de mépris et finalement de, comment dirais-je, ça leur donne la possibilité de tuer. Ne t'approche pas des humains. Et je pense que les animaux n'ont pas intérêt à s'approcher de nous.
Et vice-versa.
Nous, on s'approche d'un peu trop près. On est fait d'animal et malheureusement, ce n'est pas notre meilleure partie que l'on fait vivre.
Simonetta Grigio, j'avais une dernière question. Est-ce justement pour apporter un peu de lumière et de couleur à votre récit que vous avez eu envie de faire illustrer ce roman graphique par Clara Debré ?
Alors ça, c'est Christine Kam. Dieu merci. C'est que cette femme existe. C'est un bonheur sur Terre. C'est un miracle. Quand elle m'a appelée pour me dire qu'elle avait aimé mon conte, elle m'a dit « Je vais trouver quelqu'un qui puisse t'accompagner dans cette, pour illustrer ce livre. » Et elle a trouvé Clara. Et Clara, c'est une créature qui est sortie de mon imaginaire. Elle est rousse comme les renards, elle se baigne dans les ruisseaux, c'est une fée de la montagne. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour dire comme je l'ai dit et aussi fort que je l'ai dit, voilà, pour porter ce message.
C'est votre petite sirène.
C'est un peu ma petite sirène de la montagne, oui.
Merci Simonetta, merci Mike. On se retrouve dans quelques instants, mais avant on écoute This Is et Théodora, Mélodrama.
Blessé, baisé, VGT dans le TGV. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condensé mêlé mélodrame. Ça fait si mal, oh, que ça fait pas longtemps. faire du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Et nous retrouvons Mike de la librairie Mediapole à Montréal. Mike, en cette période de fête, vous aviez envie de nous raconter un conte de Noël typiquement québécois.
Oui, Lydia, c'est un classique des légendes québécoises, mais sans doute le conte le plus repris en littérature, en cinéma, en musique. Il s'agit de La Chasse-Galerie. En fait, c'est écrit en 1892 à la base par Honoré Beaugrand, mais c'est issu de contes poitevins, populaires et inspirés de croyances des Premières Nations. Il en existe donc plusieurs versions. Les contes au Québec sont poreux et versatiles. En fait, c'est l'histoire de bûcherons dans la forêt qui font un pacte avec Satan pour aller rejoindre leurs amoureuses pour la nuit du Nouvel An. Ils vendent leur diable leur âme au diable pour une nuit de festivité, tout ça, mais en échange, jamais ils vont toucher une croix et jamais ils ne vont blasphémer. La soirée va bien, la nuit aussi, mais ils doivent revenir vite avant 6 heures du matin et ils s'empressent de remonter dans leur canot d'écorce. Et là, les catastrophes s'enchaînent. Ils risquent de heurter une croix. Baptiste, un peu trop enivré, se met à jurer. Le bateau se renverse et tombe dans la neige. Le comte dit qu'ils se sont réveillés dans leur lit. On ne saura jamais s'ils ont vraiment voyagé dans ce traîneau fantastique. Le plaisir, il s'est remonté. La crainte de l'étranger et ses manigances. Tout ça fait que ce conte est un récit efficace, effrayant et qui traverse le temps avec ses variations et ses constants détails. Enfin, hein, ne dit-on pas que justement le diable est dans les détails.
Je ne connaissais pas cette histoire de bûcheron.
C'est merveilleux à lire.
Et c'est quoi pour vous la morale de ce conte?
À la morale, c'est de faire attention, de ne pas trop oser et d'y aller avec, disons, beaucoup de prudence lorsqu'on veut s'amuser.
Merci Mike, c'est vraiment un conte idéal pour la période des fêtes. C'est donc La Chasse-Galerie d'Honoré Beaugrand, vous connaissiez
Non, pas du tout, je vais m'y plonger parce que ça me plaît beaucoup.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission pour les grands. Je conseille votre très beau roman graphique, Simonetta Greggio, L'ours qui danse aux étages éditions pour les plus petits. Laissez-vous bercer par les contes tamouls de Kavignan Karapoudalian, conte indien de l'île Maurice, paru à l'atelier des Nomades, ou encore par les contes bilingues français, créoles et malgaches de la maison d'édition Dodo Vol de Sophie Bazin. Merci encore à notre libraire Mike Viennot et à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Laurent Baudouin à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Au Livre, etc. est une émission en coproduction avec Radio-Canada, la RTS et la RTBF. Quant à moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À la semaine prochaine. Juste après le flash, vous retrouverez Affaires sensibles avec Fabrice Drouel, La bête qui mange le monde, Gévaudan 1764.